vers des pays chaleurs, vers des pays faciles, vers des pays tranquilles.
Berger, l'enfant sommeille, de grâce par les bas. Entrez, car il s'éveille, ô les charmants ébats. Ses yeux
en gabardine, oh les belles manières, Il est 18h, vous écoutez Radio Libertaire 89.4 MHz.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence avec au programme aujourd'hui deux auteurs que nous aimons bien. La première, on la connaît depuis longtemps, et il s'agit de Stéphanie Hochet qui nous parlera de William, son dernier roman paru aux éditions Rivage. Il y est question des années secrètes où on ne sait pas ce qu'est devenu William Shakespeare. C'est un livre passionnant sur l'univers du théâtre de l'époque, sur l'Angleterre de l'époque, sur ce personnage fascinant qu'est William Shakespeare, et puis également sur des questions plus intimes qu'il peut avoir en commun avec l'auteur, avec Stéphanie Hochet. Et nous allons commencer par un roman qui s'intitule « Panorama », qui est paru aux éditions Gallimard et qui a été écrit par Lilia Hassen. Lilia Hassen qu'on a découvert avec cet ouvrage. Et c'est un roman qui nous amène un petit peu en avant dans le temps. Quelques années plus tard, le monde a changé. Et elle va nous expliquer comment ce monde a changé et comment la transparence poussée à l'extrême peut conduire à des situations fort délicates et comment l'auto-surveillance et la surveillance par les voisins peut être délétère. C'est tout un univers que l'univers de Lilia Hassen. C'est donc Panorama, le deuxième livre de cette émission, mais c'est avec elle que nous allons commencer aujourd'hui, et donc nous la retrouvons tout de suite. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz. C'est l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir de recevoir pour la première fois Lilia Hassen pour un roman qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule Panorama. Et moi, j'ai vraiment énormément aimé ce roman parce qu'il est différent de ce qu'on lit actuellement, et c'est un vrai bonheur de lecture. C'est une vraie histoire, et en tant qu'ancienne lectrice de science-fiction et animatrice d'une émission qui s'appelait La fiancée de Monsieur Spock, qui parlait de littérature de l'imaginaire dans les grandes années de la SF qu'on a pu connaître, je suis ravie que Lilia Hassen nous donne à lire un roman de ce genre, c'est-à-dire sortir de l'autofiction pour nous raconter une histoire, et une histoire qui dit des choses. Et ça, la première question, c'est de savoir comment vous, Lilia Hassen, vous en étiez venue à ce type de littérature que l'on retrouve dans Panorama.
Justement, pour les raisons que vous venez de citer, à savoir renouer avec une littérature de l'imaginaire, chose à laquelle je suis très attachée depuis mon premier roman, qui était déjà à la lisière du fantastique. J'aime me promener entre les genres sans mettre de frontières, ni de barrières psychologiques, ni rien. C'est vraiment, j'essaie de trouver la forme adéquate au sujet dont j'ai envie de parler. Et puis surtout, effectivement, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses à dire sur l'époque qu'on vit, qu'on traverse, qui est une époque de transition, qui est une époque qui est aussi assez violente, avec beaucoup d'agressivité, où tout va très vite, où le temps s'accélère. Et donc je pense que effectivement ce roman est à la fois le fruit d'obsessions personnelles, mais aussi d'une conscience que la littérature a encore des choses à dire sur le monde.
Oui, alors c'est tout à fait ça, parce que les livres de fiction qu'on peut rencontrer actuellement sont essentiellement des livres post-apocalyptiques qui nous décrivent un futur très détruit. Et là, dans Panorama, c'est un autre portrait que vous nous donnez à voir. C'est également une dystopie, mais qui est, j'allais dire, douce, entre guillemets. C'est-à-dire que concrètement, vous poussez les curseurs un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et hop, vous voyez ce que ça donne, et vous nous emmenez dans ce monde.
C'est exactement ça. Je voulais pas que ce soit caricatural, je voulais pas que. Je voulais même pas que l'imagination serve à créer des, par exemple des robots, des choses dont on ne sait pas encore à quoi, je sais pas à quoi demain ressemblera. Donc je voulais pas que ce soit, je voulais que ce soit de l'imagination, mais avec des fondations réalistes, des fondations d'aujourd'hui. Et donc je tirais les choses selon leur logique. Par exemple, quand je parle de la double consultation, ce qui se passe aujourd'hui, à savoir cette défiance envers notamment les gynécologues. Comment faire pour pousser cette réflexion dans le sens de la transparence. Et je ne voulais pas que ce soit, les consultations médicales soient par exemple totalement visibles de l'extérieur, parce que je trouvais que ce n'était pas plausible. Et donc la transparence, elle s'incarne dans ce cas-là. Dans la double consultation, le fait qu'il y ait deux médecins qui soient là pour empêcher, en tout cas qu'il y en ait un qui soit un peu le surveillant de l'autre. Et en y pensant, je me suis dit que c'était tout à fait le genre de situation qui pouvait arriver, et que plein de gens pourraient trouver que c'est une bonne idée. Il y a plein d'idées comme ça dans le livre, où finalement, même aujourd'hui, dans les premiers retours que j'ai, on dit parfois, ah oui, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée, ce qui m'effraie.
Alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu glaçant quand même, mais parce que cette ère de la transparence que vous nous donnez à voir, Lilia Hassen, dans Panorama, donc paru chez Gallimard, on va expliquer un petit peu pour nos auditeurs comment elle est née. Parce que vous en expliquez sa genèse. Tout vient un jour de quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, évoque la question de la vengeance. Il a subi un crime qui n'a pas été pris en charge par la justice. On va pas tout dévoiler, mais bon, on va schématiser. Et donc, comme justice n'a pas été faite, Il demande donc à ses followers s'il est, lui, légitime à se faire justice lui-même. Et je ne sais plus combien il obtient, 87%, je crois, de réponses positives, et il va passer à l'acte. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce de déchaînement, ça va être viral, et on va avoir une semaine qui va être la semaine de la vengeance. Et qui va faire tout basculer.
C'est ça. J'ai cherché pendant un long moment, parce que j'avais déjà cette idée d'une société transparente. C'était vraiment mon point de départ. Mais je ne savais pas comment y arriver. Et finalement, encore une fois, il suffisait de regarder un peu ce qui se passait autour de nous. Dès qu'il y avait un fait divers dans l'actualité, la manière dont les médias s'en emparaient, la manière dont la parole publique aussi saisissait ces faits divers pour démontrer l'incapacité de la justice à agir. Et donc cette politique judiciaire, ce sentiment aussi qu'ont beaucoup de Français, et qui est un sentiment réel, hein, de ne pas être compris, que la justice est complètement détachée de leurs préoccupations, ce sentiment-là, qui était corrélé à des faits divers, m'a fait penser qu'une crise politique, ça c'est une idée qu'on admet, on est effectivement dans une période de manque de confiance, mais que derrière tout ça, il y a surtout un manque de confiance énorme envers certaines institutions, notamment la justice. Mmh. Et il me semblait pertinent que ça parte de là, une sorte de défaut d'une institution comme la justice. Citoyens qui prennent en charge à ce moment-là une sorte de vengeance populaire pour des bonnes raisons, entre guillemets, puisque c'est pour se venger d'un crime. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, en fait, si la justice, effectivement, ne fait pas son travail, que le citoyen décide de faire le travail de la justice à sa place, on aboutira à une situation qui est une situation très compliquée aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisque beaucoup de gens, c'est violence, puisque c'est la violence légitime. Donc ça posait complètement la question des engagements aussi de l'État, qui est progressif, la question des citoyens aussi eux-mêmes, comment... Aujourd'hui, on renoue avec nos institutions, et il me semblait que, voilà, que ce point de départ-là pouvait justifier le fait qu'on arrive à une forme de chaos, donc de violence incontrôlée, et que pour se protéger les uns les autres, on en vienne à devoir s'observer, sans basculer dans un régime de surveillance totale, mais un régime de transparence.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soigne autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. La chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne c'est mon guide. Mes ailes opèrent en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines,
c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se dit, Lilia Hassen, quand on lit le début de Panorama, donc paru chez Gallimard, on se dit qu'après cette semaine où tout le monde se lâche et se met à trucider tout le monde, on pourrait basculer dans un univers de chaos et de violence perpétuelle, mais non, il y a une réorganisation qui se met en place. Et effectivement, c'est ce que vous évoquez, c'est la mise en place, alors c'est la disparition de l'État tel qu'il est, au profit d'une espèce de démocratie directe sur les réseaux, mais c'est surtout donc, chacun va devenir le propre gardien de ses voisins. C'est surveiller, c'est Michel Foucault, c'est surveiller ce système de surveillance qui va se mettre en place, avec la notion de transparence, c'est-à-dire que le seul moyen d'éviter le crime, c'est que tout le monde sache tout sur tout le monde.
Ouais, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est la question effectivement de la fin de l'État aussi, puisque l'État qui est censé prendre en charge la violence légitime n'arrive plus à la contenir. Et ça, c'est des choses qu'on constate déjà aujourd'hui. C'est que quand toutes les crises successives qu'on a connues, les gilets jaunes, etc., on fait comme si c'était terminé, comme si cette colère-là, elle avait été complètement étouffée ou éteinte, que tout le monde était content. Ce qui est vrai, c'est que le coût de l'essence a cessé d'augmenter, que tous les problèmes qui étaient liés à cette crise sont encore là. Et on a vu cette colère surgir pendant la période du Covid, du confinement. Et en fait, elle surgit de manière différente à chaque fois, mais finalement, c'est toujours un peu la même. C'est une forme d'incompréhension, de
non-prise en compte.
De non-prise en compte, de la souffrance des gens et puis de leur ressenti. Un ressenti, c'est pas forcément la réalité, mais en fait, c'est plus que la réalité, puisque c'est à partir de ça que les gens vont se révolter et les conséquences que cette colère peut avoir, ces conséquences qui peuvent être très graves. Et donc moi, je pose pas le postulat du livre, c'est pas du tout moralisateur, c'est vraiment je regarde ce qui est et je me dis voilà, cette situation là, elle est quand même une situation de grande violence. J'ai imaginé qu'elle passerait par une affaire plus liée à un fait divers, qu'elle serait soutenue par tout ça aussi. Et donc, ça ne me paraît pas du tout impossible que demain, les citoyens se révoltent contre la justice, comme ils ont pu le faire contre la classe politique et comme c'est encore en cours. Et donc voilà, et donc la transparence à ce moment-là, ça devient la solution, une solution qui est une solution encore plus violente sans doute.
Mais qui se passe des institutions.
Qui se passe des institutions. Et tout le monde jette un coup d'œil sur ses voisins en permanence, tout le monde est vu de ses voisins. C'est à la fois une forme de démocratie directe, et en même temps on n'est plus tellement dans un régime démocratique non plus.
Non, pas du tout.
C'est la démocratie, justement, repose sur des institutions, sur une sorte de cadre légal. Là, c'est vraiment presque plus système à l'américaine.
Oui, très normatif et très fermé, parce que ce qui est intéressant dans Panorama, Lilia Hassen aussi, c'est que vous développez une géographie de la transparence, où on voit que au sein de cette ville où se déroule l'histoire, il y a différents quartiers et les gens se regroupent par quartier. C'est très communautariste. C'est très communautariste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les classes sociales continuent largement d'exister. Il y a vraiment le quartier des riches. Et puis, bon,
il y a les différentes communautés. Il y a un peu d'intersectionnalité, mais bon, c'est vraiment très peu. Mais en fait, c'est un monde parfait, entre guillemets, horrible. C'est juste, il y a plus aucun espace de liberté. Enfin, presque.
Presque. Il y a un quartier quand même.
Voilà. C'est le petit village gaulois.
Il faut toujours qu'il y ait un peu des résistants, qu'il y ait une vente de résistance. La résistance, elle passe dans le bon livre, elle passe par l'art, elle passe par la poésie, elle passe par cet homme qui s'appelle Pablo et qui effectivement est complètement hors de tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que les classes sociales, elles demeurent. Et ça, c'est vraiment en réfléchissant à cette société de la transparence, je m'étais posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une société qui peut se diviser selon les idéologies des uns des autres, selon les préférences sexuelles, selon un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui forme des communautés comme sur les réseaux sociaux. Et en réalité, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les communautés, elles existent, mais finalement, c'est des communautés sociales. On revient toujours à la question sociale. Les communautés autour de la mode, ça reste des communautés de CSP+, les communautés autour de certaines musiques, ça reste des communautés plus urbaines. Finalement, il y a quand même toujours une sorte de calque sociale, en fond de questions idéologiques, que ce soit le féminisme, que ce soit l'écologie, etc. On se rend compte que dans la manière dont les gens se regroupent, il y a plusieurs formes d'écologie, plusieurs formes. Et à chaque fois, ce qui crée au sein même de courants idéologiques des fractures, c'est la question. On vit pas du tout les choses de la même manière en fonction de ses revenus. Et dans cette société qui est très fragmentée, forcément, la transparence, c'est aussi une sorte de
vitrine.
De vitrine aussi bourgeoise.
Oui. Ouais.
D'être vraiment là où tout se passe bien, de croire en la sécurité plus qu'en la liberté. On sait qu'on a raison, de penser qu'on est dans le bien, parce qu'effectivement, il ne se passe rien. Mais cette absence d'événements, en réalité, fiche tout et devient très glaçante.
C'est ce qui existe déjà un peu aux États-Unis avec ces villes très fermées, réservées.
Aux États-Unis, c'est vrai que c'est déjà.
Oui, depuis longtemps. Les maisons sont devenues transparentes. Enfin bon, tout. On patrouille dans les rues. Tout le monde devient le surveillant de tout le monde. Tout le monde doit se montrer à tout le monde. Les seuls espaces qui restent encore préservés, c'est les toilettes. Et encore, il faut voir la tête, il faut voir les pieds. Le lit, qui peut devenir effectivement une espèce de sarcophage. Rien que l'idée, c'est terrible. Mais comme on l'évoquait, tout est transparent, la violence n'existe pas, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, la police s'appelle plus la police. Sauf un quartier, qui est le quartier de ceux qui ont refusé de se livrer à ce système, qui est une espèce de ghetto où là continue une vie, j'allais dire, classique, quartier extrêmement surveillé et qui est bien sûr dévalorisé et perçu de manière extrêmement péjorative.
Oui, parce qu'on est dans une époque de la responsabilité individuelle. Hein? Donc si on ne veut pas se plier à certains codes...
C'est qu'on a quelque chose à cacher, c'est qu'on est malhonnête, c'est voilà, toutes les idées reçues qui vont avec.
Tout à fait ça. Et donc il faut, si on n'accepte pas d'entrer dans ce jeu où il faut montrer patte blanche, mais encore une fois, c'est des choses qu'aujourd'hui on voit déjà, mais même à travers des détails, c'est-à-dire que rien que par exemple la manière dont les restaurants sont de plus en plus ouverts, avec des cuisines vertes, c'est à la fois effectivement très beau, très esthétique, très souvent minimaliste, très propre. Mais c'est aussi une manière de dire, regardez, chez nous c'est propre, on n'a pas d'arrière-cuisine avec des produits frelatés. Et donc c'est quand même une manière d'indiquer aux consommateurs qu'on est quand même plutôt mieux que les autres. Et donc c'est totalement, encore une fois, sans jugement, mais c'est vraiment une tendance globale qu'on retrouve partout.
De tout afficher tout le temps.
De tout afficher et de tout montrer. Et effectivement, le quartier des Grillons, c'est un quartier en fait comme les quartiers d'aujourd'hui, tout simplement. Donc un quartier qui a sa part de violence, qui a une partie un peu plus trouble. Et en même temps, c'est le quartier où sont réunies toutes les conditions d'une vie aussi intérieure. Là où quand tout est tout se dissout dans sa valeur, la valeur d'exposition, dans ce qu'on montre, finalement on finit par mourir aussi intérieurement. Et donc on a effectivement ces vitrines dans le quartier, notamment dans le quartier bourgeois, où tout le monde devient ce que j'écris dans le livre, une sorte d'avatar de lui-même.
Tout à fait.
Mais c'est totalement désincarné, et d'ailleurs tout le défi c'était même dans l'écriture de rendre ça.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Oui, alors on voit tout à fait cette expression, être avatar de soi-même dans Panorama, Lilia Hassen, jusqu'au point même de faire de la publicité et d'utiliser tel aspirateur à tel moment pour vendre, voilà, d'être sponsorisé dans sa vie quotidienne. Mais ça pose la question aussi de savoir à quel point l'intimité nous est utile et ce qui relève de l'intimité. Parce qu'on va parler, si vous voulez bien, de votre personnage principal maintenant, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, elle était flic, sauf que maintenant, comme il n'y a plus de délinquants, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais on va quand même faire appel à elle, parce que comme elle est ancienne, elle a connu l'époque où il y avait des choses un peu louches qui pouvaient arriver. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une famille entière qui va disparaître. Et donc, elle va retrouver son instinct d'enquêtrice. Et on va la voir à la fois travailler sur cette histoire et en même temps vivre, elle, dans ce monde où elle va être, j'allais dire, l'exemple même de ce qui se passe à l'intérieur des individus. Et c'est ça qui, moi, m'a intéressée, c'est qu'elle donne vie à votre univers.
Tout à fait, je voulais que, pour la première fois, c'est un roman que j'ai écrit à la première personne. Précisément parce que je pense que l'univers que je décris très déshumanisé et qu'il y avait besoin d'une incarnation et notamment d'une première personne pour qu'on comprenne aussi de l'intérieur. Et elle, au début, elle est plutôt satisfaite de ce monde, de la transparence, parce que voilà, on veut des choses sur son passé et quelque part, elle avait un peu fantasmé cette transparence, l'absence de violence. Mais au fur et à mesure de son enquête, elle va se rendre compte aussi de tout ce qu'elle a perdu, y compris dans sa relation avec son mari, qui est une relation qui quelque part, dont elle avait l'impression qu'elle battait de l'aile quand il lui cachait des choses, et dont elle se rend compte qu'en réalité, elle ne peut plus vivre non plus d'être totalement exposée. Et donc il y a une forme de dilemme chez elle. C'est qu'à la fois, effectivement, l'obscurité, les murs sont la condition de la tromperie, de l'adultère, de tout ça. Et en même temps, si vous mettez une histoire d'amour sous une lumière, sous une lumière crue, elle ne peut même pas vivre, elle peut même pas, en fait, cette histoire ne peut même pas respirer. Et donc elle s'étouffe, elle meurt de sa belle mort. Parce que c'est tout simplement impossible si on ne considère pas la part de mystère de l'autre, sa part de secret, où en fait l'autre devient une espèce de poupée vide. Et ça, c'est vraiment des choses dont elle se rend compte en allant dans ce quartier qui est une sorte de quartier un peu plus caricatural que celui dans lequel elle vit, puisque c'est vraiment le quartier de la transparence. Et donc elle va comprendre au fur et à mesure de son enquête tout ce qu'elle perd aussi en étant trop protégée, toute cette part de risque qu'elle a perdue, tout ce que ça entraîne aussi comme petite mort. C'est des petites morts antérieures successives, mais effectivement c'est un passage qui est pas résigné, qui arrive à l'analyser de plus en plus, et qui certes était ancienne flic, est devenue gardienne de protection. Mais elle va aussi en tant que femme faire un chemin aussi entre le début du roman et la fin.
Oui, parce que c'est vrai que le monde tel que vous le décrivez, Lilia Hassen, c'est un jour sans fin. C'est la même journée qui se répète tout le temps, de la même façon. Tout est tellement sous surveillance que tout est complètement normé, que tout est sujet à observation, appréciation. Il n'y a plus d'ombre, alors que chacun a encore une part d'ombre. Il n'y a plus d'inattendu, il n'y a plus de spontanéité, et donc il n'y a plus de créativité non plus. Tout est extrêmement lisse et désespérément plat.
Oui, parce qu'il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de droit à l'erreur. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire quelle possibilité pour le pardon, quelle possibilité pour la réinsertion, quelle possibilité pour revenir dans une vie.
Ou pour être différent, simplement.
Oui, exactement. Et même la question d'être, quand on a son nom sur Internet, pour une raison ou une autre, parce qu'il s'est passé quelque chose à une époque de sa vie, on sait qu'on est condamné à perpétuité d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont liées à cette forme d'extrême transparence où tout doit être dit tout le temps. Et donc la possibilité du changement en est amoindrie. Parce que changer, c'est aussi pouvoir faire des erreurs à certains moments, pouvoir se rattraper sans être totalement abattu. Et c'est vrai que voilà, cette société, c'est une société du non-événement. Il n'y a plus de possibilité de destin, il n'y a plus de possibilité qu'il se passe tout simplement quelque chose. Et effectivement, là, j'ai bien aimé la référence à un jour sans fin, mais c'est exactement ça. Il y a un côté un peu trop mal chaud aussi, où tout est tellement vu tout le temps, tout est tellement contrôlé, tout est tellement normé, que même. En fait, c'est ça, c'est que finalement, c'est la vie elle-même qui finit par disparaître de ces êtres humains, qui n'ont plus grand-chose à mesure.
Et un des exemples, c'est juste pour l'anecdote, mais vous l'évoquez, Lilia Hassen dans Panorama, c'est l'école. On n'est pas très très loin de la rentrée scolaire, et ce qu'est devenue cette école avec les psys, les machins, les espaces bien-être, on est dans la caricature. Il y a cette obligation au bonheur aussi, qui existe déjà à notre époque, et qui là est aussi poussée à l'extrême.
Et c'est un peu, c'est drôle, parce qu'il y a la première dystopie sans doute de l'histoire, c'est celle d'Evgeny Zamyatin dans les années 20. Et il y a cette phrase, voilà, on les forcera à libre, en parlant des communauté extraterrestre qu'il s'agit de rendre heureuse.
Et évidemment, nous venons pour votre bien.
Voilà, on vient pour le bonheur. Mais
c'est tout à fait ça. Ouais.
Que ce soit l'histoire de la colonisation,
c'est toujours le même argument.
C'est toujours cet argument. C'est comment on rend heureux.
On va vous expliquer.
Et donc libre. Et la liberté, en réalité, la liberté réelle, est apparentée à une forme de sauvagerie. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on retrouve finalement toutes les dystopies un peu politiques. Mais qui est encore une idée assez forte. Pendant la période du confinement, il y avait cette idée quand même que la liberté, c'était un danger, que la sécurité devait passer par des restrictions de liberté. Ce conflit quand même très fort entre liberté et sécurité, où on était un peu sauvé de prendre parti. Ce qui est fou, puisque en réalité, la sécurité et la liberté sont liées, normalement. Mais on a fait comme si c'était deux notions complètement séparées, comme s'il
fallait choisir.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, il y avait des sondages qui, à l'époque, demandaient aux gens de se positionner pour les deux. Dans une période d'angoisse et d'anxiété majeure, c'est sûr que les gens choisissaient la sécurité. Donc ça biaise aussi le discours.
En choisissant librement la sécurité. Mais en réalité, cette question de la liberté, elle était complètement discutée à ce moment-là. Parce que ça veut dire quoi, choisir librement la sécurité, de ne plus sortir, choisir. Enfin, c'était finalement, personne n'a eu l'espace de la réflexion non plus.
Non, on était dans un contexte émotionnel très perturbant. Exactement. Et donc la liberté, le choix ne se posait même pas. Quoi. On n'était pas au stade de la réflexion, on était au stade de vivre quelque chose qui faisait peur.
Et c'est là où cette période m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est que je me suis rendu compte que dans des périodes justement de crise, notamment sécuritaire, en fait, on préfère se ranger derrière ce qui nous rassure. Et donc, la question de la liberté devient complètement secondaire, à tort ou à raison dans certains contextes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement humain de préférer finalement sa sécurité à toute forme de liberté. Et ça, c'est quand même une tendance un peu de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il s'agit de... On a un enfant qui va à l'école, qui est au collège pour la première fois et qui doit parcourir un long trajet. Les parents préfèrent que l'enfant ait un portable, même si en soi ça leur déplaît, parce que voilà, le portable c'est aussi en fait le facteur de risque peut-être plus grand que d'aller traverser de rue. Mais on est dans cette espèce de conflit où on a l'impression que l'enfant qui sera géolocalisé sera plus en sécurité, alors que le portable, je pense qu'il y a rien de plus dangereux.
Mais parce qu'on nous l'a vendu comme instrument de sécurité. Exactement. Aussi, ça, c'est toute la dimension commerciale et qu'on voit très bien aussi. Oui, tout à fait, et qu'on voit très bien dans votre roman aussi.
Et cette dimension marketing, elle est assez intéressante, parce que finalement, c'est un peu comme en 1984, c'est un renversement de valeur. C'est-à-dire, toutes les notions négatives sont renversées en notions positives. Et un peu le cas pour ces smartphones où, en fait, au lieu de considérer qu'ils sont des dangers pour plein de raisons, ce qui est le cas, on se dit bon, c'est super, même s'il y a des dangers. Et en fait, on renverse complètement la question. En réalité, pour un adolescent, ce qui se passe sur Internet aujourd'hui
est beaucoup plus sérieux.
Une jeune fille a plus de chances de se faire enlever en ayant passé trois semaines sur une application de rencontre qu'en étant dans la rue. Mais on inverse complètement le processus, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à se protéger de ce qui dépend de nous, parce que là, c'est notre liberté d'aller passer du temps sur un téléphone. Comme on est libre, on choisit, on a l'impression de choisir, on a l'illusion qu'on choisit.
L'illusion de la liberté, oui.
Et donc on a cette illusion de liberté qui est tellement plus forte que la liberté elle-même, la liberté d'être sans savoir où on est, y compris à l'adolescence. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est moins admissible pour un parent que que donner un portable, ce qui en soi dit beaucoup aussi de la force marketing de ces produits-là.
Oui, surtout qu'il y a la pression des adolescents eux-mêmes, de leurs pères, de la famille, de l'entourage.
Et la pression, elle se fait toujours horizontale. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est l'horizontalité qui gagne, bien sûr. C'est pour ça que la nouvelle société que je décris, c'est pas une société... C'est pas une société verticale, c'est une société d'ultra-horizontalité et qui n'est en réalité pas du tout démocratique, puisqu'elle est excluante, parce qu'elle, en fait, dans cette espèce de recherche de bonheur absolu, elle devient extrémiste.
Il n'y a plus d'éthique, le mot éthique disparaît complètement.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
On va pas dévoiler l'histoire, on va juste dire qu'elle va enquêter donc sur cette famille qui a disparu. Comment peut-on disparaître alors que tout le monde voit tout dans ce quartier chic? Et l'histoire amènera des réponses. Mais vous évoquez aussi la question judiciaire, puisque il peut quand même y avoir des soucis, quels qu'ils soient, réels ou pas. Mais en tout cas, les individus peuvent être jugés, jugés par tout le monde. Là aussi, c'est comme le vote. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce système-là, c'est la victime qui a droit à un avocat, pas l'accusé.
Bien sûr, j'ai inventé une émission qui s'appelle « Présumé coupable ».
Au hasard.
Puisque, évidemment, c'est un peu ce qui est demandé de plus en plus aussi. C'est une sorte de système où c'est à l'accusé de faire la preuve de son innocence. Et voilà, et nous, au parti civil, de démontrer quoi que ce soit. Enfin, c'est ce système-là, quelque part, aujourd'hui, bah, il est presque plus souhaité que le système inverse. Encore une fois, dans cette démarche de sécurité, on préfère mettre hors d'état de nuire tout individu suspect.
Potentiellement suspect.
Voilà. La question de la suspicion, elle est très, très importante dans ce cas de figure. Et effectivement, ces votes populaires ne sont pas démocratiques, ils sont populaires. comme peuvent le mot tribunal populaire, c'est pas très. C'est pas beaucoup d'institutions derrière. Et donc des erreurs, et donc des possibilités de violence encore plus grande. Et donc voilà, c'est aussi cette distinction-là aussi entre démocratie et ce qui est démocratique et ce qui est populaire, c'est pas exactement la même chose.
Alors, on va laisser nos auditeurs pardon, excusez-moi, découvrir ce roman, Lydia Hassen. Ça s'appelle Panorama, c'est paru aux éditions Gallimard. Il y a vraiment beaucoup de choses. On peut évoquer, et on va laisser en suspens le fait qu'il y a l'importance de l'écriture et de la poésie, l'importance de la nature. Il y a justement, qu'est-ce que c'est être différent, le rapport à l'imaginaire au travers d'un petit garçon qui aime bien les lacets de chaussures. Il y a beaucoup de choses très, très poétiques et qui viennent en contrepoint, et c'est ça qui fait toute la force du livre, en fait. C'est que vous avez su... opposé à à cette machine à broyer qu'est cette société de la transparence, la force de certains individus, avec des petites qualités, avec des petits détails qui font que ça fait du bien.
Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas un livre poétique en soi quand on le lit comme ça, mais qu'en creux, il y a tout un autre univers qui se dessine.
Tout à fait.
Et que je laisse à l'appréciation aussi du lecteur. Je n'ai pas... Je ne vais pas décrire plus que ça parce que justement j'aime bien que ce soit cette histoire de contrepoint. Mmh. Qu'on ait cette espèce de monde très froid, mais qu'il y ait aussi des possibilités, qu'il y ait aussi un espoir par ailleurs. Autrement, des portes. Et puis en plus, c'est vraiment ces moments suspendus qui sont un peu différents. C'est des moments qu'on pourrait apparenter à la société d'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est aussi une manière de dire au lecteur de profiter aussi de l'état dans lequel nous sommes, qui est imparfait, mais dans laquelle il y a encore quelques possibilités, de moins en moins, puisqu'on voit qu'on tend vers ça, mais on est encore dans cette période un peu charnière, donc c'est pas du tout le livre sombre au sens dystopique ou post-apocalyptique dont vous avez parlé au début. J'ai pas voulu aller là-dedans, parce qu'effectivement, quand c'est post-apocalyptique, c'est déjà trop tard. Puis on essaie de sauver des petites choses, mais c'est déjà trop tard. On est à la jonction de deux états, de deux mondes. Quand j'écris ça, c'est qu'il y a tout qui me séduit davantage.
Oui, je donnerai juste un exemple, si vous voulez bien, Lydia Hassen, pour montrer que persiste malgré tout cette capacité créatrice, cette capacité d'émerveillement. Il y a un des personnages dans le livre qui fait de la photo, et qui a un laboratoire argentique, et qui évoque que dans chaque photo argentique est unique. Et je trouve que c'est une belle image pour illustrer le propos du livre.
Bah, tout à fait, je trouve que la photo, en fait, c'est exactement ça. C'est la différence entre la photo numérique et la photo argentique. On a l'impression que c'est des photos, que c'est la même chose, mais l'argentique, parce que c'est du papier, en réalité... conserve les traces, et donc elles vieillissent, elles jeunissent, elles ont une vie elles-mêmes, une vie matérielle qui leur donne toute leur forme, elles sont uniques. Et c'est vrai que c'est comparé à la photo numérique, qui est d'autres. On n'est pas dans une forme d'accumulation qui finalement détruit aussi cette épaisseur temporelle.
Merci beaucoup, Lydia Hassen. Ça s'appelle Panorama, c'est chez Gallimard. Il y a des projets en cours.
Pas pour l'instant.
Et bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un projet.
J'espère aussi.
Merci.
Merci à vous.
Shall I say, is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say, is calling. And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling.
Voilà, c'était Lilia Hassen qui nous parlait de Panorama, son roman paru aux éditions Gallimard et que je vous recommande chaudement. Nous allons retrouver maintenant quelqu'un qu'on aime bien sur cette antenne. Il s'agit de Stéphanie Hochet qui va nous parler de Shakespeare à propos de son roman intitulé William et qui est paru chez Rivage. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est avec le grand plaisir dans Idéaux et Débats de retrouver à nouveau Stéphanie Hochet. C'est vraiment un bonheur de se retrouver comme ça de livre en livre. Et là, c'est un nouveau roman qui est paru chez Rivage et qui s'intitule William. Alors, c'est à chaque fois, ça va être la surprise de savoir quel sera le prochain livre de Stéphanie Hochet, parce que vous avez ce talent d'emmener le lecteur dans votre sillage de livre en livre comme ça sur des thèmes très très différents. Et moi j'ai particulièrement aimé William parce que j'aime Shakespeare et donc cette histoire m'a touchée. On va en parler dans quelques instants. Mais ce qui m'a frappée surtout, Stéphanie Hochet, dans ce roman William, c'est la liberté d'écriture. Et ça, je pense qu'on va en parler parce que autant le précédent était très tenu, tenu, autant celui-là, il y a une liberté d'écriture, vous passez d'une personne à l'autre, vous intercalez des tas de choses, il y a trois actes, bien sûr, mais ce choix du style, il est venu comment ?
Oui, c'est un texte assez hybride, c'est un texte sur lequel j'ai réfléchi forcément, puisque j'ai d'abord eu l'idée de raconter ces années mystérieuses qui sont appelées les années perdues de William Shakespeare, dont on ne sait absolument rien. Et je me suis dit, eh bien voilà, puisque l'histoire, puisque les textes sont muets, puisque les historiens font face à un mur, c'est à la romancière de se lancer pour raconter ce que personne ne sait. Puisque la littérature doit savoir quelque chose que les spécialistes ne savent pas. Donc je me suis dit, voilà, pendant 4 siècles, personne n'a rien réussi à trouver sur ces années-là.
Ce qui est fascinant.
Ah bon, je vais me lancer, je vais raconter ce qui s'est passé, évidemment. Donc il y avait ce démarrage, et ensuite je me suis dit, c'est très bien de parler de lui, de parler du plus grand dramaturge, mais j'ai pas envie de faire un livre historique, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'interroger le texte et j'ai envie de m'interroger moi, j'ai envie de montrer au lecteur qui il est, qui est William pour moi. Mmh. Et j'ai commencé en fait la rédaction de ce livre comme ça, en tâtonnant, en montrant au lecteur que moi-même j'enquêtais sur lui et j'enquêtais sur moi. Et j'expliquais aussi pourquoi je me suis mise à parler de lui. Et je suis revenue à mon adolescence et au texte de lui que j'ai étudié. Et ça s'est fait progressivement comme ça. Et j'ai voulu que ce soit un texte un peu plus punk, en fait, que ce que j'ai fait avant, qui était peut-être plus classique. Mais ça convient bien.
Tout à fait.
Voilà, ça convient bien la période élisabéthaine, qui est pour moi une période punk en fait, parce que là, c'est une période quand même insensée si on se penche un petit peu sur cette période-là.
Elle est fascinante cette période.
Elle est fascinante. On réinvente totalement le théâtre, le langage. Le langage théâtral est éblouissant et s'interroge énormément, est en pleine transformation, en pleine révolution. Et les personnages du livre qui ont existé, les dramaturges, les comédiens, sont extraordinaires.
Oui, c'est Marlowe, ouais, ouais, avec le vers libre.
C'est ça, exactement. C'est ces jeunes artistes qui sont un peu des fous furieux parfois, qui sont des comédiens ou effectivement des dramaturges comme Christopher Marlowe, qui a quand même une vie
remarquable,
qui a une vie complètement folle, qui lui aussi est un personnage de roman. Ouais, on sait qu'il a fait de la prison. On pense qu'il était peut-être espion de la reine. On sait qu'il meurt à 29 ans poignardé. Et on pense qu'il a aussi rencontré Shakespeare et qu'ils ont peut-être travaillé sur les premières œuvres ensemble. Bon, voilà, c'est une piste intéressante. Mais c'est surtout, voilà, c'est une période où quand les gens se fâchent, ça finit souvent à l'épée.
Dans le centre.
Voilà, ça finit on finit sur le carreau. Hein, voilà, donc c'est pas une époque bien sage, c'est une époque violente, c'est une époque magnifique. La langue que va inventer Shakespeare pour parler de sentiments amoureux, et quand il va écrire ses sonnets, quand il va écrire ses drames ou ses comédies, ça va être une langue tout d'un coup. Enfin, on n'a pas fait plus beau depuis, hein, faut revenir au texte, il n'y a pas plus beau. Et c'est ce mélange de beauté et de violence qui est complètement fascinant. Donc il fallait que le texte soit un petit peu à l'image de cette période-là, qui est une période qui va dans tous les sens, qui est une période furieuse, violente et magnifique. J'espère que le texte est à la hauteur, en fait.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que vous parlez de Shakespeare, puis d'un seul coup c'est lui qui parle, et puis vous parlez de vous, et on navigue comme ça dans le roman. On est complètement pris. On est fasciné effectivement par cette époque, parce qu'il faut préciser que c'est une période de l'histoire particulière, que la peste est encore extrêmement présente, que Londres est à la fois une ville merveilleuse, mais une ville très glauque aussi. Ouais. Qu'au départ, il n'est pas londonien, il vit à Stratford, ouais. Et que ce sont deux mondes complètement différents.
C'est extraordinaire qu'il ait réussi à devenir ce qu'il a été.
Tout à fait.
En fait, tout était fait pour qu'il rate sa vie. Et c'est là que j'ai commencé en fait à m'interroger sur lui et sur la teneur du texte où j'allais faire des passerelles avec lui, parce que est-ce qu'on n'a pas tous, et particulièrement moi, eu peur de rater sa vie, surtout très jeune? C'est-à-dire, est-ce que le milieu ne vous enferme pas dans quelque chose que vous ne voulez pas?
Le déterminisme.
Ouais. Et lui, c'est un jeune provincial. Son père était gantier. Il a aussi été maire de Stratford-upon-Avon. Mmh. Donc on imagine le notable. Apparemment, il a même été poursuivi pour quelques affaires. Donc il n'était pas hyper honnête, un peu louche. On peut imaginer une figure assez autoritaire. Alors ça, on n'a pas évidemment les récits, hein, mais c'est ce que j'ai imaginé, c'est ce qui est plausible en tout cas. Et en tout cas, les faits sont là. Le jeune William, qui est l'aîné, qui est le premier garçon, parce qu'il y a deux filles qui sont nées avant lui et qui sont mortes assez jeunes. Le jeune William va d'abord épouser une femme plus âgée que lui, mais bien plus âgée, enfin pour l'époque en tout cas.
Et très jeune de son
très
côté.
Très jeune, il a 18 ans quand il l'épouse. Naissent les premiers enfants, il y en a une première fille, ensuite les fameux jumeaux, dont Hamlet, avec un N. Ouais. Et tout d'un coup, il disparaît. Et on sait que 7 ans plus tard, ça y est, il est comédien et il devient dramaturge. Mais il n'y avait aucune chance qu'il le devienne en fait. Parce qu'il était loin, il était à l'époque, hein, Stratford,
c'est loin.
Il n'a pas été à l'université, ni à Oxford, ni à Cambridge. Il a juste été au collège de Stratford. Et puis voilà, il n'y avait aucune chance qu'il devienne comédien. Il ne connaissait évidemment aucune troupe. C'est un vrai mystère qu'il soit devenu qui il était. Et donc il a fallu beaucoup de chance, beaucoup d'énergie et une volonté folle. Il a fallu qu'il disparaisse de cette vie de Stratford. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a fallu fuguer pour lui.
have no brother, I am like no brother. I don't have neither pity, love, nor fear. Oh Jesus, bless us, I was born with this. Down, down, down to heaven, say I send thee here. To take is not to give. To take is not to give. To take is not to give.
To take is not to give. Heaven, what a world is this? Who is so gross that cannot say this?
Palpable device, palpable device.
Yes, we so bold but says this is not. That is the world that none will come to now. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A far stigmatic, these are dreadful sticks.
I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog.
A bug and spider.
The crown down, down, down. I blacked it down.
I blacked it down.
That's all I live in.
Myself, but until I be the best. But it's the world that no one comes to now. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A far stigmatic, these are dreadful sticks.
I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog.
A bug and spider, I am monster.
Exactement, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Je me dis, enfin, c'est des sensations extraordinaires de fuguer. Ceux qui ont déjà pratiqué la fugue savent que, eh bien, on éprouve des émotions extraordinaires, fortes. En plus, à une époque où on n'a pas de portable, c'est encore plus fort parce que là, personne ne sait où vous êtes. Tout d'un coup, c'est la liberté qui a été arrachée au contexte, quoi. C'est en ça que j'ai essayé de me rapprocher de lui, parce que évidemment il est loin, il a vécu au 16e siècle, on sait très peu de choses sur lui, on n'a aucune idée même de son physique. Les tableaux de lui, oui, qu'on a trouvés, en fait c'est pas des tableaux officiels, on pense que ça peut être lui, mais en fait il n'y a aucune preuve que c'est vraiment lui, on n'a aucune description physique. C'est ça qui est fou.
C'est incroyable.
Et pourtant, on sait qu'il a existé, parce qu'évidemment, il y a eu des rumeurs qui ont dit qu'il n'avait pas existé. Mais on sait qu'il a existé, parce que là, pour le coup, il y a plusieurs preuves. Et qu'il a été ce dramaturge-là. Donc, c'est un vide qui est juste fascinant. Et il fallait s'y plonger absolument entièrement. C'est pour ça que c'est un livre où je donne énormément de moi, voilà, où je me mets à nu sur beaucoup de choses. Et c'est un livre qui engage et qui parle beaucoup de jeunesse et de... et d'épanouissement et de
et du poids qu'on peut subir en étant sûr. Très jeune de, d'une famille très lourde.
Ouais, c'est ça. Ben voilà, c'était il fallait absolument que je passe par lui pour parler de moi. C'était je pouvais pas écrire un livre uniquement une autobiographie en fait tout simplement parce que ça n'aurait pas été le livre que j'aurais voulu publier. Parce que je ne veux pas d'un livre qui va plomber tout le monde. Voilà, il fallait qu'il y ait la grandeur de William pour pouvoir dire des choses personnelles. Et comme ça, on arrive à un équilibre, en fait, entre le très haut et puis des passages de ma vie que j'ai trouvé très sombres. Voilà, mais il y a des passages sombres et lumineux dans les deux cas.
Oui, il y a la vie, il y a la mort. Et ça s'équilibre tout le temps dans le livre comme dans l'œuvre de William.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait sa force aussi, c'est que ça balaye tellement tous les champs de nos existences que c'est puissant. Je crois que c'est important aussi de préciser pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'époque ce que c'était que le théâtre à l'époque. Ouais. Parce que on a une vision très moderne du théâtre, mais c'était pas du tout ça le théâtre autant de Shakespeare. C'était un lieu de vie extrêmement intense. On faisait du théâtre avec trois fois rien dans
bien
une
sûr.
Cour en décrivant que c'était tel endroit et tel endroit. Il y avait plein de théâtres qui se créaient à Londres. On y restait longtemps, on y mangeait, on y buvait. Enfin,
c'était incroyable le théâtre. Alors déjà les troupes circulaient énormément pour éviter la peste dont vous avez parlé, parce que quand il y avait la peste à Londres, on fermait les théâtres, c'était impossible de donner des représentations, mais c'est aussi un art qui est en train de se transformer totalement, comme on l'a dit, et puis tout d'un coup, poussent comme des champignons les théâtres en dur, quoi. Alors que ça n'existait pas. Avant, il suffisait qu'on se mette dans une cour d'auberge, etc., et puis on ameutait le chaland, et puis chacun venait, etc. Et le petit peuple venait écouter. Mais bon, ça, c'était souvent en fait des pièces un peu avant l'arrivée des dramaturges de cette époque, c'était des pièces un petit peu caricaturales où c'était le Monsieur Vice et Madame Vertu ou des choses comme ça. Enfin, c'était des archétypes. Et progressivement, en fait, on crée des personnages vraiment de chair, de sang. Et ils poussent les théâtres donc dans les territoires loin de la city, puisqu'on n'a pas le droit de se construire dans la cité londonienne. Et là, effectivement, ce sont des lieux où on accueille absolument tout le monde. Vous pouviez payer 3 francs 6 sous, évidemment. Là, c'était un penny peut-être, je ne sais pas comment c'était, à combien était l'entrée pour une pièce au Globe. Au théâtre, au Swan, etc. Les premiers théâtres, le Globe étant le théâtre pour lequel...
Le fameux.
Voilà, le fameux qui
est menacé d'ailleurs.
Shakespeare a travaillé, mais ça c'est plus tardif. Mais tout le monde était accueilli. C'est-à-dire que vous avez toutes les classes sociales, il y a toutes les strates de la population, il y a le petit peuple qui entre et puis qui reste debout. Plus on a d'argent, plus on peut s'installer en fait dans les... à l'étage en fait et puis avoir une meilleure vue etc. et pouvoir on peut s'asseoir tout autour de je trouve plus les mots mais vous voyez ce que je veux dire et le petit peuple lui qui se tient debout en fait on sait très bien que ça parle, ça chamaille, ça achète de la nourriture ça interpelle les acteurs ça devait être extrêmement difficile de jouer avec un public de l'époque.
Tout à fait.
Mais en même temps, c'est ce qui m'a énormément plu quand j'ai étudié les textes, c'est de comprendre que les textes étaient vraiment destinés absolument à tout le monde. Les textes ne sont pas destinés à la bourgeoisie. Ils sont pas là, on n'écrit pas une pièce pour s'adresser uniquement à la reine. Quoique certains dramaturges, enfin je pense à Ben Jonson, on sentait qu'il essayait beaucoup de séduire de la noblesse. Mais Shakespeare, lui, il écrit pour tout le monde, d'ailleurs, dans son œuvre, il y a tous les registres de langage, il y a de l'argot, il y a des langues magnifiques, il y a de la violence, il y a du gore, il y a du sexe, on va dire, le plus cru, possible. Il y a absolument tout, tout ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir. Et le public, même le public pauvre, peut voir, peut assister et... C'est évident qu'ils éprouvaient beaucoup de plaisir, parce qu'apparemment, c'était, voilà, c'était très très couru. Alors, je ne dis pas que tout le monde comprenait toutes les métaphores, si c'était des, en relation avec l'Antiquité grecque. Comme
oui, il y avait tous les niveaux de lecture.
Mais voilà, mais c'est pas grave, parce qu'on comprend très bien quand même. Et je trouve que c'est un art généreux, en fait. C'est un art qui s'adresse à tout le monde. C'est, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai étudié cette période.
Wait a minute, not see me when you come by. Could be sharing someone else's pillow. And my love for you is better than diamonds. To you, everything I bestow. And tomorrow I'll be dancing on my own. And I'll need a kiss from my head that's aching. And I'll be a hungry dog without a bone. Hoping my place with you's not taken. Kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the bruised evening sky. And a crown of jewels for your head now. For your wishes and both are for thine. And three guesses you're the angel's child. Four hopes that this love's not boiled. Kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the bruised evening sky. Crown of jewels for your head now. For your head now. For your head now. For your head now. And if you come back, I'll take you to the garden. We'll dance to an orchestra on the lawn. And dance with the ghosts upon the dawn. And on the dawn and on the dawn. Then you'll kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the bruised evening sky. And a crown of jewels for your head. Your head now. For your
Oui, et puis je crois qu'il faut insister sur l'espace de liberté que représente le théâtre. Et vous en parlez largement, Stéphanie Hochet, dans William, donc ce roman qui est paru chez Rivage, avec la question, par exemple, du travestissement, oui. de la possibilité, du fait que rien n'est figé, qu'un homme peut jouer un rôle de femme, s'habiller en femme, et que c'est le théâtre qui permet ça.
Ouais, c'est alors traditionnellement, à cette époque-là, les femmes sont jouées par des hommes, plutôt des garçons, donc des jeunes hommes, parce qu'il fallait avoir la voix, il fallait quand même avoir sans doute une corpulence qui pouvait convenir à une jeune femme ou une femme. Et généralement, c'était des adolescents de 16 ans qui n'avaient pas trop mué, mais tous les rôles étaient joués par des hommes, ce qu'on retrouve au Japon,
mais oui, tout à fait.
Au théâtre japonais. Donc c'est quand même une tradition qui existait dans d'autres pays. Mais Shakespeare est celui qui s'amuse particulièrement des travestissements. Donc on voit dans plusieurs pièces un homme qui va se travestir en femme et qui va séduire un homme. Et donc deux hommes vont être amoureux, mais en même temps ils vont enlever leurs affaires. Et puis, enfin bref, il s'amuse beaucoup en fait à brouiller tout ça et en fait à jouer avec le genre. Hein.
C'est l'un des premiers à l'avoir fait.
Voilà, c'est ça, c'est l'un des premiers à l'avoir fait. Donc ce serait, je trouve, une belle... on va dire une belle leçon pour comprendre ce que c'est que le genre, parce qu'aujourd'hui on a le gender, etc. On pense que c'est ceci ou cela, et puis finalement on se trompe parce qu'on le réduit. Alors qu'on sent que Shakespeare est très libre, on sent que lui, pour lui, en fait, tout ça n'est qu'un déguisement.
Voilà.
En fait, être un homme ou être une femme, il suffit de mettre un vêtement, et puis tout d'un coup on est un homme ou on est une femme, et on sent qu'il est très joueur là-dessus. Mmh. Comme s'il disait, en fait, l'homme n'est pas le contraire de la femme, en fait. Mmh. Et voilà, et sa vie est quand même un peu la preuve de cette idée-là, puisque voilà, beaucoup de gens qui s'intéressent à lui ont découvert quand même que dans ses sonnets, il écrit des odes amoureuses à soit une femme qui est d'ailleurs noire, alors on ne sait pas à quel point elle est noire, un black lady, ou alors à un homme, sans doute un noble, peut-être son protecteur. Donc c'est quelqu'un qui, comme le disait Virginia Woolf, en fait, en esprit, est bisexuel. Pour Virginia Woolf, en fait, c'est le génie absolu parce qu'en fait, il a les deux sexes en lui.
Et il écrit avec tout ça.
Ouais.
Et c'est ça qui fait sa force et qui fait que ça parle à tout le monde.
Ça, c'est le langage, déjà. Il a une langue qui est incomparable, même avec celle de Marlowe. Et puis je trouve que sa grande qualité aussi, c'est d'avoir donné tant d'importance aux femmes dans les textes. Effectivement, les personnages féminins sont extrêmement intéressants de Shakespeare. Donc je pense que c'est le dramaturge qui a donné les plus grands rôles, les plus beaux rôles aux femmes. Ne serait-ce que dans Beaucoup de bruit pour rien, avec Bénédicte et Béatrice. Béatrice et Bénédicte, c'est un couple particulièrement intéressant parce que l'homme et la femme sont tout aussi intelligents, et peut-être que Béatrice est encore plus intelligente que Bénédicte.
On va revenir quelques instants, Stéphanie Hochet, sur la langue de Shakespeare, oui. Parce que cette langue, qui peut sembler âpre de nos jours dans son approche, elle va avoir un rôle très important pour vous. Oui. En tant que jeune femme étudiante en fac d'anglais et dans une situation familiale qui est compliquée, mais ça les lecteurs le découvriront en lisant le livre, mais le fait d'accéder à cette langue, ça a été un élément important pour vous.
C'était évidemment difficile parce qu'il y a des archaïsmes, ça se lit pas comme un texte anglais d'aujourd'hui, donc elle est un peu rugueuse, et quand on a accès ensuite au sens, quand on parvient à s'immerger, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur. Donc c'est à la fois la difficulté pour moi qui était un défi, et en même temps il y a eu des moments de grâce. Je me souviens de certains passages, des passages que je connais par cœur alors que j'ai zéro mémoire, j'ai un tout petit stockage. Je me souviens d'absolument aucun passage. Je peux presque pas faire de citation d'auteur, par exemple, mais je connais des passages de Shakespeare qui me sont restés de cette époque. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Sa langue m'a totalement marquée. Elle est absolument sublime. Et oui, elle est évidemment difficile si on la prend dans le texte. On ne va pas se cacher que même pour un Anglais, Al Pacino faisait ce très très beau film sur... Looking for Richard, qu'il faut absolument voir. Hein, pour moi, c'est un film qui ressemble un peu à ce texte-là de William, je pense, parce que c'est un film qui interroge beaucoup le théâtre de l'époque et interroge l'œuvre. Et interroge des Anglais ou des Américains, etc. Et il leur demande ce qu'ils en pensent. Et beaucoup de gens qui n'ont pas été voir la pièce disent bah, j'ai des souvenirs d'école et j'ai détesté. C'est nul. Et on voit bien que quand c'est mal amené, quand c'est mal enseigné, quand tout d'un coup on est face à quelque chose de rugueux comme ça qu'on ne comprend pas, évidemment qu'on lâche. Mais ce qui me fait plaisir en revanche, c'est que beaucoup de gens maintenant se mettent à lire Shakespeare, à avoir lu mon livre. C'est étonnant. C'est très étonnant. Et beaucoup de gens avaient peur de lire ce livre en disant « Mais moi, je ne connais rien sur Shakespeare. » Mais au contraire, allez-y. Moins vous en connaissez, moins vous connaissez de choses dessus, allez-y, lisez-le vraiment. Et en plus...
C'est un roman d'aventure.
C'est vraiment un roman d'aventure. D'autant que même si on connaît très très bien les pièces, en fait, on connaît très mal sa vie. Donc, personnellement, j'ai pas mal enquêté pour savoir qui il était. Et puis après, j'ai comblé les trous.
Oui, mais ça, c'est tout l'art de la romancière.
C'est ça. C'est le plaisir pur. Au bout d'un moment, c'était comme si dans un puzzle, il manquait des pièces. Et là, c'était à moi de peindre les pièces manquantes. Là, c'était le grand plaisir. Mais je pense que j'ai voulu aussi être assez rigoureuse sur lui, sur ce qu'on sait de lui.
Oui, c'est ça qui est fascinant, Stéphanie Hochet dans William, donc paru chez Rivage. C'est que ce que vous nous donnez, c'est terriblement crédible. Mmh. Et vous faites en sorte que cette histoire, elle nous apparaît totalement vraie, tout à fait véridique.
C'est la magie de l'écriture romanesque, de la fiction, qui au bout d'un moment, en fait, vous ne doutez même plus de la réalité, de la vérité de ce que vous êtes en train d'écrire, ça l'est. C'est un processus de la fiction qui fait que, en fait, vous n'avez tellement plus de choix quand vous racontez. Il faut... En fait, ça, c'est très comparable au travail du comédien. C'est que vous intégrez cette histoire-là et vous ne doutez pas une seule seconde que ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Et c'est exactement pareil quand on écrit, c'est la vérité.
Et quand on le lit aussi.
Ah, c'est censé être ça. C'est censé être ça.
Alors, on a parlé beaucoup de William, mais j'aimerais, si vous le voulez bien, Stéphanie, qu'on parle du personnage féminin qui est très important, qui est celui de sa femme, Anne, parce que c'est un beau personnage aussi.
Anne Hathaway, qui a existé, qui s'est mariée avec le jeune William Shakespeare à l'âge de 26 ans, quand lui-même avait 18 ans. Ils se sont sans doute bibliquement rencontrés quand il avait 17 ans, puisqu'elle va accoucher 6 mois après son mariage. C'est une jeune femme qui a dû éconduire beaucoup de prétendants qui vivaient dans un petit village à côté de Stratford, qui a perdu son père un peu après le mariage avec William, donc qui a intégré la maison des Shakespeare. Comme souvent ça se faisait à l'époque, elle a vécu dans la maison des Shakespeare. Et c'est émouvant parce que c'est une femme qui, plus que très probablement, ne savait pas
lire.
Ni lire, ni écrire.
Mais qui est sensible aux mots.
Elle est sensible parce que, alors évidemment, j'ai imaginé leur rencontre. Et comme j'imagine que William, c'est évidemment, on va dire, un choix de romancière, n'est pas forcément très beau, j'ai pensé qu'il l'avait séduite avec ses mots. Et qui lui avait longuement parlé. Et on n'est pas étonné quand on connaît ses textes, quand on connaît ses sonnets, quand on lit Roméo et Juliette, il sait parler aux femmes. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'il l'a séduite en lui parlant. Et voilà, elle aurait très bien pu céder pour un autre homme bien avant. En fait, elle a quand même 26 ans, c'est ça qui est fou. Et voilà, donc j'imagine qu'elle était effectivement très sensible à son art. Ils ont, selon moi, eu une histoire d'amour, même si évidemment nous n'en avons pas la preuve, mais je pense qu'elle a existé. Évidemment, il la quitte. Alors parfois les gens me disent « Oui, mais enfin quand même, il la quitte. Oui, mais il n'aurait jamais pu devenir Shakespeare s'il ne l'avait pas quitté. » C'est ça le problème. En même temps, il revient souvent. On sait qu'en fait, il n'a jamais perdu Stratford upon Avon de vue, qu'il a même acheté des terres, qu'il revient passer sa retraite là-bas.
Là-bas.
Il va mourir à 52 ans, le jour de son anniversaire. On sait qu'il n'a pas de descendance actuelle, par exemple, puisque ses filles n'ont pas une grande descendance, que ça va s'arrêter. Mais Anne est quelqu'un de mystérieux. Alors, j'ai imaginé qu'elle avait quelques noms et que... Et j'ai imaginé l'amour entre eux. Et je crois que c'était un moment émouvant pour moi, en tout cas, à écrire.
Ça s'appelle William. C'est de Stéphanie Hochet. C'est paru chez Rivage. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie,
merci
de cette rencontre. Et puis, au prochain.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci. C'est la fin de cette émission, c'est la fin d'Idéaux et Débats. Nous avons parlé donc de Panorama de Lilia Hassen paru chez Gallimard et de William de Stéphanie Hochet paru chez Rivage. Deux conseils de lecture. Eh bien, on se retrouve à la prochaine émission. Prochaine émission, nous parlerons de nuages avec Mathieu Simonet et nous retrouverons la chronique de Gérard Guégan. D'ici là, restez bien sûr à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. À bientôt!
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Quand ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence avec au programme aujourd'hui deux auteurs que nous aimons bien. La première, on la connaît depuis longtemps, et il s'agit de Stéphanie Hochet qui nous parlera de William, son dernier roman paru aux éditions Rivage. Il y est question des années secrètes où on ne sait pas ce qu'est devenu William Shakespeare. C'est un livre passionnant sur l'univers du théâtre de l'époque, sur l'Angleterre de l'époque, sur ce personnage fascinant qui est William Shakespeare, et puis également sur des questions plus intimes qu'il peut avoir en commun avec l'auteur, avec Stéphanie Hochet. Et nous allons commencer par un roman qui s'intitule « Panorama », qui est paru aux éditions Gallimard et qui a été écrit par Lilia Hassen. Lilia Hassen qu'on a découvert avec cet ouvrage. Et c'est un roman qui nous amène un petit peu en avant dans le temps. Quelques années plus tard, le monde a changé. Et elle va nous expliquer comment ce monde a changé et comment la transparence poussée à l'extrême peut conduire à des situations fort délicates et comment l'auto-surveillance et la surveillance par les voisins peut être délétère. C'est tout un univers que l'univers de Lilia Hassen. C'est donc Panorama, le deuxième livre de cette émission, mais c'est avec elle que nous allons commencer aujourd'hui et donc nous la retrouvons tout de suite. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéo et Débat, avec le plaisir de recevoir pour la première fois Lilia Hassen pour un roman qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule Panorama. Et moi, j'ai vraiment énormément aimé ce roman parce qu'il est différent de ce qu'on lit actuellement, et c'est un vrai bonheur de lecture.